Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct de 15h à 16h tous les jours. Alors comme tous les jours, mon acolyte, mon binôme pour prendre soin de vous est bien là à mes côtés. C'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire ce lundi, pour bien démarrer la semaine avec Jimmy, on s'est dit tiens, si on parlait de musique, mais bien sûr de la musique du point de vue scientifique et médical. D'abord, pourquoi nous fait-elle autant de bien? Que se passe-t-il réellement dans notre cerveau lorsque nous écoutons des morceaux qui nous plaisent, lorsque même nous jouons d'un instrument? Et puis vous verrez que la musique est aussi littéralement capable de nous soigner. Elle a une action directe sur notre mémoire. On vous détaillera tout ça avec notre invité du jour. C'est Hervé Platel. Il est professeur de neuropsychologie à l'université de Caen et chercheur à l'INSERM. Ensuite, comme tous les lundis, Benjamin Lévesque nous rejoindra pour sa chronique beauté. Il va nous parler aujourd'hui de ces bactéries qui peuvent être excellentes pour la beauté de notre peau. C'est bien mystérieux tout ça, Jimmy, non? Vous trouvez pas? Des bactéries pour la peau, pour
pourquoi
nous rendre
pas,
beau.
Bon,
on verra. Allez, et puis vers 15h50, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle tentera d'aider une jeune femme dans l'incompréhension totale après une séparation.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question de Siam. On l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy. Une petite question pour vous. Ma fille a 10 ans, elle a été diagnostiquée il y a à peu près un an d'une parotidite aiguë. Je l'ai emmenée aux urgences à l'hôpital où elle a été hospitalisée durant une semaine. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur cette inflammation? Merci et bonne journée.
Alors, pour vous répondre précisément sur cette question, nous avons interrogé pour vous le docteur Christophe Lecar. Il est chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
Il s'agit d'une parotidite aiguë. C'est une inflammation de la glande parotide, qui est la plus grosse glande salivaire de notre organisme. Cette inflammation de la glande parotide, elle apparaît souvent quand il y a un calcul au niveau du canal excréteur de la salive de cette glande principale. Le canal excréteur de la glande parotide se trouve au niveau de l'intérieur de la joue. Et si la salive ne s'élimine pas correctement, eh bien, il va y avoir un gonflement de cette glande salivaire. Ce gonflement va entraîner une surpression qui va être très douloureuse. Et donc, pour soulager, il suffit de prescrire des antidouleurs et de déboucher le canal excréteur.
Voilà, c'était le docteur Lecar au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, bien sûr. C'est Anne-Sophie qui nous a appelé. On l'écoute.
Bonjour, c'est Anne-Sophie. Je laissais un message par rapport à une question que j'ai sur le hoquet, en fait, qui survient chez moi sans prévenir et sans que je comprenne pourquoi vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il y a une raison psychologique. Voilà, merci de votre réponse. Au revoir.
Merci Anne-Sophie pour votre question. Jimmy, d'abord, peut-être nous expliquer ce qu'est vraiment le hoquet. On va dire d'un point de vue général, il se passe quoi dans notre corps quand on a le hoquet?
Alors le hoquet, c'est la contraction involontaire d'un muscle qu'on appelle le diaphragme et des muscles intercostaux. Alors le diaphragme, pour rappeler ce que c'est ce qui permet de respirer en quelque sorte. C'est ce qui va contracter l'air pour remplir vos poumons. Et parallèlement à cette contraction, vous avez votre glotte que vous trouvez dans la gorge qui va se fermer, qui va freiner l'arrivée d'air et va déclencher du coup ce bruit caractéristique du hoquet. Alors on ne sait pas trop à quoi ça sert le hoquet, mais on pense que ce serait quelque chose un peu d'archaïque qu'on retrouve dans le ventre de la maman.
Et oui, les bébés, des fois, ont le hoquet dans le ventre.
Oui.
C'est vrai.
Et c'est un trait qu'on partage avec tous les animaux vertébrés.
Les chiens ont le hoquet.
Exactement, les chats aussi.
C'est assez incroyable. Étrange. Alors bon, dans le cas de Anne-Cécile, elle suggère, elle qui est dans son cas, encore une fois, peut-être une raison psychologique à ce hoquet qui revient régulièrement. Vous en pensez quoi?
Alors pourquoi pas, mais classiquement le hoquet va survenir après un repas un peu trop copieux, pris trop rapidement, de la consommation d'alcool, de boissons gazeuses, si jamais vous prenez du froid puis du chaud, puisque finalement la contraction du diaphragme, eh bien elle va être un peu stimulée, provoquée par un estomac qui va être trop rempli, trop dilaté. À l'inverse, d'autres facteurs peuvent développer justement ce hoquet, mais là on rentre dans des cas un peu plus rares et surtout
j'allais
des pathologies
dire.
Un peu secondaires.
C'est ça, effectivement, on ne le sait pas toujours, mais il y a aussi des personnes chez qui le hoquet est carrément pathologique. Elle d'ailleurs, c'est peut-être le cas, il faut peut-être consulter, parce qu'elle dit qu'elle l'a très souvent. Des cas chez qui ça ne s'arrête pas, ça devient presque chronique, là c'est plus grave. Hein, quand
on
même.
Dit que c'est chronique à partir de 48 heures de durée de hoquet,
oh,
et puis dans ces
48
cas-là...
48 heures de hoquet, déjà moi quand ça dure 5 minutes, ça m'agace.
C'est difficile. Et c'est dans vrai. Ces cas-là, la cause la plus fréquente, c'est une irritation au niveau de l'œsophage, et souvent à cause d'un reflux. Mais vous avez le droit d'avoir Étant donné que je vous ai dit que c'était le diaphragme qui va être irrité, une pathologie dans les poumons, un cancer du rein, des maladies métaboliques, donc tout OK qui dure plus de 48 heures, doit faire voir votre médecin généraliste à tout prix.
Bon, question très pratique, Jimmy. On veut toutes les recettes du docteur Jimmy Mohamed. Pour les gens, en tout cas, chez qui c'est pas forcément pathologique, le OK parfois c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce qu'il y a mille choses qui circulent.
C'est ça,
des recettes de grand-mère, la tête en arrière, avalée d'un coup. Enfin, on fait quoi alors?
C'est ça. Il existe d'ailleurs des traitements. Souvent, on peut proposer dans les formes un peu répétitives des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire des traitements contre le reflux, des neuroleptiques, des antivomitifs. Et puis, il y a des techniques comme retenir son souffle. Ça permettrait de faire baisser le dioxyde de carbone, boire un verre d'eau. Mais mon préféré, c'est juste que je ne connaissais pas, c'est de faire le poisson comme ça.
Ah bon?
Non, pas du tout, c'est pas vrai. Si c'est pour vous, il faut encore vous faire n'importe quoi, Mélanie.
Et je le fais
non,
en
faire
plus.
Le poisson pour arrêter le hockey. Non, parce que finalement, ça passe tout seul.
Faites des blagues en cette fin de saison.
Il y a
plus,
très peu d'études. Ça intéresse pas beaucoup les scientifiques, à juste titre, parce que ça passe dans l'image.
Merci beaucoup, Jimmy, pour ces conseils bidons. Allez, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être, vous allez faire rire quand même. Hein, 39,21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas. Retenez bien le poisson hein, pour arrêter le hockey. Dans un instant, notre grand dossier du jour, dans lequel on va parler de l'intérêt et des bienfaits de la musique pour notre esprit, notre corps et même notre mémoire. Comment agit-elle très concrètement dans notre cerveau? On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Ravie de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Hervé Platel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neuropsychologie, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire physiologie, mais c'est psychologie à l'Université de Caen. Vous êtes également chercheur à l'INSERM. Et donc on va tenter avec vous de mieux comprendre ce que la musique peut réellement nous apporter en matière de santé et surtout son impact sur notre cerveau. Alors c'est une émission qui a été préparée en collaboration avec la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale, qui est le premier financeur caritatif de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Pour commencer, professeur Platel, dites-nous depuis quand finalement vous, les chercheurs, les médecins, vous intéressez à ce sujet musique et cerveau?
En fait, il a émergé clairement à la fin du 19e siècle avec l'émergence de la neurologie moderne. On a commencé à pouvoir regarder ce qui se passait dans le cerveau. Alors là, avec les moyens qui étaient ceux de l'anatomie, c'est une fois que le patient était décédé, on regardait quelles étaient les lésions du cerveau et puis on mettait ça en relation avec les difficultés comportementales qu'il pouvait avoir. Et à la fin du 19e siècle, on s'aperçoit qu'il y a des patients qui ont des troubles du langage, mais qui conservent de bonnes capacités musicales et des patients qui peuvent avoir en fin de compte des patterns inverses. Bien sûr, l'association est possible aussi. On peut avoir à la fois des troubles du langage et des troubles de la musique. Mais l'idée qu'il pourrait y avoir une autonomie entre langage et musique est fondée en fait à la fin du 19e.
Ça veut dire qu'on a réussi à identifier des zones spécifiques liées à la musique dans le cerveau?
Alors pendant longtemps, on s'est posé la question et je pense que vous avez tous en tête l'idée que on est resté sur une représentation du fonctionnement cérébral. On a deux hémisphères, hein, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et on met souvent en avant que l'hémisphère gauche, c'est celui du langage, et que l'hémisphère droit serait plutôt celui de la musique. Et ça, c'est une représentation qui est restée pendant longtemps accrochée, je dirais, au niveau du grand public et même au niveau médical. Et c'est à partir des années 1980-1990, avec l'arrivée des techniques de neuroimagerie cérébrale, où on a pu vraiment regarder ce qui se passait dans un cerveau quand quelqu'un écoutait de la musique, qu'on s'est aperçu en définitive que ce n'était pas aussi simple que ça, que dans notre hémisphère gauche comme dans notre hémisphère droit, il se passait beaucoup de choses quand on écoutait de la musique.
Bon, il y en a un peu des deux côtés alors.
Voilà.
Si j'écoute un morceau de musique qui me plaît, par exemple, si vous regardez dans mon cerveau à l'imagerie, vous me passez sous une IRM, qu'est-ce que vous allez voir? Il va se passer quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut observer?
Mais on observe en fait qu'il n'y a pas beaucoup de régions de votre cerveau qui n'est pas sollicitée en fin de compte par cette activité. Ça, c'est le plus surprenant parce que, comme je disais tout de suite, quand on a commencé à regarder ce qui se passait avec les techniques de neuroimagerie, on faisait l'hypothèse qu'il y aurait une petite région du cerveau spécialisée pour la musique, un centre cérébral de la musique. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est très compliqué. Et en fait, quand vous écoutez un morceau qui vous plaît, déjà le cerveau va le décoder perceptivement. Ouais. Vous allez essayer de le faire le lien avec, d'un point de vue de votre mémoire, avec le fait, est-ce que je le connais, est-ce que je le connais pas? Ah, je l'ai reconnu. Donc, il y a tous les circuits de la mémoire qui sont impliqués. Et
en fait, c'est une symphonie des neurones, ça s'agite de partout.
C'est ce qu'on
dit
souvent, hein, on parle de symphonie neuronale parce qu'en définitive, c'est la perception, le traitement émotionnel. Vous allez juger si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Le traitement, effectivement, instrument mémoriel. Donc, en définitive, se représenter la musique, c'est aussi se représenter la musique d'un point de vue visuel, potentiellement. Donc, quand on regarde un cerveau qui écoute de la musique, il y a pratiquement toutes les régions qui participent.
Et du coup, si on regarde le cerveau de musicien, est-ce qu'il est différent du cerveau de quelqu'un de lambda ?
Alors, il y a deux types de différences. C'est-à-dire, est-ce qu'un musicien qui écoute de la musique fait fonctionner son cerveau différemment qu'un non-musicien ? Alors ça, c'est déjà une première chose. Oui, un musicien, c'est un expert. Donc un expert, il va faire travailler son cerveau. C'est comme quelqu'un qui a appris deux langues, hein, un bilingue, un trilingue. Et bien évidemment, quand il entend une deuxième langue par rapport à quelqu'un qui commence tout juste à apprendre une deuxième langue, ben, c'est pas la même chose. Donc le musicien expert, il fait fonctionner son cerveau un petit peu différemment. Mais ça ne veut pas dire pour ça que le non-musicien en fait ne comprend pas la musique comme le musicien, mais il n'a pas les mots pour le dire. On va dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études de musique, mais qui comprennent comment fonctionne la musique simplement par le fait d'avoir été exposé à la musique. Après, l'autre chose, c'est est-ce que le cerveau des musiciens est différent des non-musiciens par l'effet de la pratique régulière, notamment d'un instrument. Et ça, c'est ce qu'ont montré les travaux de neuroimagerie à partir des années 90-2000, c'est-à-dire de montrer que pratiquer la musique, ça transformait le cerveau de manière effectivement structurale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez avoir des modifications dans la densité, le nombre de neurones. Vous allez avoir des modifications...
Il y en a plus quand on écoute, exposé à la musique.
Une épaisseur corticale augmentée. On va avoir effectivement une connectivité cérébrale. Alors le cerveau, les neurones, ils sont connectés entre eux, ils dialoguent entre eux grâce notamment aux autoroutes de l'information, qu'on appelle la substance blanche. Et cette substance blanche, elle est aussi modifiée. Et c'est grâce, en fin de compte, à l'étude des musiciens que l'on comprend mieux ce que l'on appelle la neuroplasticité.
Très bien. Professeur Platel, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on vous détaille cet après-midi les secrets et les pouvoirs de la musique sur notre cerveau. Dans un instant, on va regarder d'un peu plus près ce que l'apprentissage de la musique, notamment, pourrait nous procurer comme bienfait à nous, mais aussi peut-être à nos enfants. On y revient très vite. Restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Il est toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Hervé Platel. Vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen. Vous êtes également chercheur à l'INSERM, l'un des premiers en France à avoir utilisé justement les techniques de neuroimagerie pour étudier les effets de la musique sur le cerveau. On a compris ce qui se passe à peu près, en tout cas dans les grandes lignes pour nous. On n'est pas spécialiste au niveau cérébral quand j'écoute de la musique. D'ailleurs, cette symphonie de nos neurones, elle commence quand finalement ? Est-ce qu'il faut être déjà un petit peu grand ou est-ce que déjà tout petit, il se passe la même chose ?
Tout au long de la vie, en fait, notre cerveau va accumuler des expériences auditives, des expériences esthétiques aussi par la musique. Et ça commence évidemment dans le ventre de la maman. Donc à peu près, en général, on situe donc le démarrage d'une expérience perceptive de type auditif vers 6 mois de gestation.
Oui.
Même si effectivement les oreilles ne sont pas encore en capacité de transmettre une information auditive, on sait que le cerveau traite l'information auditive qu'il peut percevoir via, en fin de compte, les os du corps, via le corps, à partir de 6 mois. Et on sait que ça fonctionne puisqu'il y a un effet mémoire qui est bien documenté, c'est-à-dire que les bébés à la naissance, ils reconnaissent la voix de leur maman parmi d'autres voix et aussi ils ont plus d'intérêt pour des comptines musicales, des berceuses, donc des musiques qu'ils reconnaissent d'une certaine manière, en tout cas, et ils trouvent plus intéressantes parce que ce sont des musiques qu'ils ont entendues dans le ventre de leur maman.
Faire swinguer son fœtus et il aura l'oreille musicale dès la naissance.
Peut-être.
Alors, on passe aux enfants un peu plus grands. Est-ce qu'on a comparé le cerveau d'enfants qui pratiquent de la musique, par exemple, à ceux qui n'en feraient pas ? Est-ce qu'on a observé des différences ?
Alors, ce qui est intéressant, et il y a plusieurs études en cours, il y a peu d'études avec la neuroimagerie parce que faire de la neuroimagerie chez l'enfant apporte un certain nombre de contraintes, mais malgré tout, il y a quelques expériences qui ont pu être menées et qui donc regardent comment le cerveau change chez des enfants au départ qu'on répartit au hasard entre le fait qu'ils fassent une activité autre que la musique ou la musique, et puis on regarde 6 mois, un an après si le cerveau de ces enfants a été modifié ou pas de manière différentielle. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, c'est que les enfants qui font de la musique ont des modifications de leur cerveau dans les régions auditives. On disait tout à l'heure des modifications avec une épaisseur, donc de, une densité de neurones, une épaisseur corticale modifiée. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les régions motrices. Et ce que les premiers auteurs ont mis en évidence, qui a été confirmé, répété, c'est que on a aussi des modifications de l'épaisseur de ce qu'on appelle le corps calleux. Le corps calleux, en fait, c'est cette région qui permet de relier les deux hémisphères et qui permet la communication entre les deux hémisphères. Alors pourquoi on a cet effet ? Certainement parce que les enfants qui apprennent la musique, ils doivent essayer de coordonner au niveau de leurs deux mains pour maîtriser un instrument, que ce soit le violon, le piano ou un autre instrument. Ils doivent effectivement beaucoup s'entraîner d'un point de vue de la motricité fine. Mmh. Et ça implique effectivement beaucoup de dialogue cérébral.
Au niveau de la mémoire, parce qu'il y a un impact de la musique sur notre mémoire, est-ce que les enfants, par exemple, qui seraient exposés à de la musique ou qui sont musiciens, ont une meilleure mémoire, sont meilleurs à l'école, par exemple ?
Alors, très rapidement, en fait, au bout de 6 mois, on voit que les enfants qui pratiquent la musique ont un effet sur leur capacité d'attention, de concentration et de mémoire immédiate. C'est-à-dire, en fait, ils sont capables de retenir davantage d'informations à court terme que des enfants qui n'ont pas ce type
de
pratique.
Ça peut servir à l'école, ça.
Ça sert, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'effet de transfert, donc qui peuvent être intéressants dans les apprentissages scolaires. Parce que, évidemment, dans les apprentissages scolaires, c'est intéressant de pouvoir être plus attentif, plus concentré, d'avoir une meilleure mémoire, c'est évident.
Mais si on comprend bien ce que vous dites, en substance, on devrait inscrire tous nos enfants au solfège, les inciter à faire un instrument de musique quel qu'il soit.
Alors, c'est vrai pour la musique parce que je dirais que c'est une sorte de sport complet cérébral. Et c'est très engageant, la musique. Alors, je dis bien la musique, l'apprentissage de la musique avec le solfège, ce qui est quand même pas neutre. Mmh. Hein, c'est pas juste le jardin musical. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'engageant. Et c'est vrai que ce type d'effet, on peut les retrouver dans d'autres types d'activités, donc de loisirs chez les enfants, notamment dans la danse, dans le théâtre. Donc, il y a des bénéfices et ça a été documenté. Mais la musique présente un effet qui est à spectre large, qui est vraiment très très important sur tout un tas de domaines cognitifs et c'est sans doute ça une des spécificités de l'effet musique.
Mais est-ce que le plaisir qu'on prend à le faire ou à l'écouter, ça compte ? Parce que je veux dire, si un enfant on le traîne au solfège et qu'il n'a pas du tout envie, qu'il y va en hurlant, en criant, en pleurant, je ne suis pas sûre que ce soit très bénéfique pour son cerveau.
Je suis bien d'accord avec vous et c'est vrai que alors c'est toujours une question importante, c'est de savoir les bénéfices immédiats et après à long terme. Et il y a un chercheur dans le monde qui s'est beaucoup intéressé à cette question, Glenn Schellenberg à Toronto, et qui se pose cette question. Mais en fait, le plus intéressant, ce n'est pas de savoir les bénéfices immédiats pour les enfants, c'est de comprendre quel est le profil des enfants qui continuent malgré l'effort que ça demande. C'est comme pour la danse, en fait. Être petit rat de l'opéra, c'est super quand même engageant, et ce n'est pas que du plaisir. Et pourtant, il y a des enfants qui continuent. Ça, c'est très intéressant.
Professeur Platel, on va continuer, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre sur les bienfaits de la musique, y compris chez des gens malades. Et oui, la musique nous fait du bien au moral parfois, mais elle est aussi capable de soigner, d'y contribuer. Les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la musique pour aider des patients atteints d'Alzheimer, par exemple. On y revient dans quelques toutes petites minutes. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Europe 1 vous fait gagner 2 places à Roland-Garros pour la finale de votre choix. Homme ou femme, c'est vous qui choisissez. Pour jouer et avoir une chance de gagner, envoyez tennis au 739-21. Le tirage au sort s'effectuera le mercredi 9 juin. Allez, je vous le rappelle, c'est tennis au 739-21. Bonne chance à tous.
Tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer. Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Notre invité est toujours en studio avec nous. C'est vous, professeur Hervé Platel. Je rappelle que vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, chercheur à l'INSERM. Et à présent, on va parler de la musique qui est capable de soigner, enfin plutôt d'améliorer notamment les cerveaux malades. D'ailleurs, je crois que ça fait un moment que les orthophonistes, on va commencer à parler d'eux d'abord, l'ont compris, par exemple avec les patients en post-AVC. Ils font quoi concrètement ?
Tout à fait. Alors, les patients en post-AVC qui ont des troubles du langage, en particulier ce qu'on appelle une aphasie motrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des patients qui ont des difficultés à articuler des mots, à prononcer des phrases. Ils sont bloqués, en fait, d'un point de vue moteur pour articuler les mots. Et en fait, on s'est aperçu dans les années 1970, et puis après, on a mieux compris ce qui se passait dans le cerveau, que la musique permettait effectivement de désinhiber, en fin de compte, le langage chez ces patients, c'est-à-dire en les faisant répéter des mots ou des phrases sur des rythmes et des mélodies, d'une certaine manière, en les faisant chanter, oui, eh bien, on s'aperçoit que ça les aide à récupérer la fluidité du langage. Pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, parce qu'on voit qu'il y a une proximité, évidemment, entre les réseaux du langage et de la musique, même s'ils ne sont pas complètement... ils ne se recouvrent pas complètement, ils sont un petit peu autonomes. Et donc, par la musique, ben, on peut arriver
améliorer
à stimuler
le langage.
Le langage. Ouais. Oui, tout à fait.
On dit que la musique adoucit les mœurs, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi améliorer la douleur ? Est-ce que ça peut être utilisé d'ailleurs ? C'est peut-être d'ailleurs le cas en ce moment d'ailleurs.
Tout à fait. Il y a beaucoup de, maintenant d'études qui documentent comment, notamment dans le contexte des soins palliatifs, c'est-à-dire prendre en charge les patients qui soit ont des douleurs chroniques, soit ils sont en fin de vie, on va pouvoir utiliser la musique alors, pour diminuer la douleur ressentie. Et là, ça fonctionne très très bien, puisqu'on peut comme ça diminuer de plus de 50% jusqu'à 60% les doses, en fin de compte, d'antidouleur.
Mais est-ce qu'il y a une musique en particulier ? Parce que Jimmy aime bien le rap, je ne suis pas sûr qu'en pour les gens qui souffrent, ce soit très bon. Mais...
non, mais je pense que là, le principe, c'est évidemment, dans ce contexte-là, c'est de personnaliser l'intervention. Bien évidemment, on va prendre des musiques qui permettent la relaxation, qui permettent de se calmer, de se relaxer. Et en fait, pour expliquer très rapidement pourquoi la musique fait cet effet, c'est parce que, premièrement, quand vous écoutez de la musique, vous êtes attentif et donc vous avez déjà un effet où on détourne votre attention de la douleur ressentie, ça c'est évident.
Ce que fait l'hypnose un peu, d'une certaine façon.
Absolument, ouais. C'est le même type de mécanisme. Et puis, l'autre mécanisme, c'est qu'en plus, vous écoutez quelque chose qui vous plaît et ça va stimuler votre circuit du plaisir dans le cerveau, votre circuit de la récompense, et ça va libérer des substances qui vont diminuer la sensation douloureuse.
Et si on revient sur le cerveau des malades, je crois que vous avez déjà fait rentrer la musique à l'hôpital, notamment pour étudier son effet sur des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec eux ?
Alors, la maladie d'Alzheimer, tout le monde sait que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire, comme on dit. Donc, ces patients, ils ont de plus en plus de difficultés à se rappeler ce qu'ils ont fait récemment. Et puis, la maladie avançant, ils vont avoir de plus en plus de difficultés aussi à se souvenir des événements de leur propre vie. Et je pense que beaucoup d'auditeurs doivent avoir en tête cette vidéo qui a fait le buzz il y a quelques mois de cette patiente
ancienne danseuse, qui est ballerine,
et en entendant le lac des cygnes, la mélodie du lac des cygnes qui se met à bouger, d'une certaine manière à revivre la chorégraphie. Et ça, c'est déjà le premier bénéfice, c'est qu'on voit en fin de compte que les musiques qui ont un sens pour les patients réactivent les circuits de la mémoire de manière très très forte, et on arrive avec ces patients même à un stade avancé, à pouvoir d'un seul coup les éveiller d'une certaine manière.
Vous testez ça, vous, dans vos travaux ?
Complètement, mais ça, je dirais que tous les cliniciens le remarquent, c'est-à-dire la musique a ce pouvoir d'éveil des patients, et ce qu'on a réussi à faire nous de plus, c'est de montrer qu'en plus, ces patients, non seulement ils s'éveillaient grâce à des musiques anciennes qu'ils connaissent, mais aussi ils pouvaient apprendre des musiques qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait encore des capacités d'apprentissage, des capacités de mémorisation. Donc, il y a encore des formes d'apprentissage de mémoire grâce à la musique qu'on a pu démontrer chez ces patients Alzheimer.
Même si on n'a pas Alzheimer, mais qu'on est âgé, est-ce que la musique, elle fait du bien au cerveau, même quand on commence à vieillir ? Est-ce que ça va aussi aider, je ne sais pas, à mieux vieillir ?
Ça, c'est une hypothèse qui est évidemment, ça fait longtemps qu'on le suppose. Et alors, il y a des travaux très intéressants sur des grandes populations pour regarder, en fonction des activités que vous faites dans votre vie, si vous avez plus ou moins de risques de démarrer des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Et effectivement, les musiciens auraient un risque diminué. Et il y a même des travaux chez des jumeaux. Donc, jumeaux homozygotes, ça veut dire quoi ? En fait, ils viennent du même œuf. Voilà, ils ont le même code génétique. Et il y en a un qui a fait de la musique et pas l'autre. Et en fait, on s'aperçoit que celui qui a fait de la musique a des modifications dans son cerveau, comme j'en parlais tout à l'heure pour les enfants, que n'a pas celui qui n'a pas fait de la musique. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça montre qu'on peut avoir le même bagage génétique, mais en fonction de ce qu'on fait dans notre vie, eh bien, on peut modifier son cerveau.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Platel, d'avoir été à nos côtés cet après-midi pour cet éclairage passionnant autour de la musique et ses bienfaits, notamment pour notre cerveau. Une émission préparée en collaboration avec la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale. Et donc, j'en profite aussi pour vous signaler que si vous souhaitez faire un don pour aider la recherche, les chercheurs, vous pouvez le faire, ce don, sur www.frm.org. Voilà, c'est dit. Merci encore, professeur.
Merci à vous.
Dans un instant, la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Il nous propose ce lundi un focus sur les gentilles bactéries qui pourraient faire des miracles concernant la beauté de notre peau. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, comme tous les lundis, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Cette semaine, Benjamin, vous vouliez nous parler de ces bactéries qui peuvent nous rendre plus jolies. Comment c'est possible?
Oui, vous savez, on a beaucoup parlé du microbiote dans nos intestins, mais il faut savoir qu'on a également 10 000 milliards de micro-organismes qui colonisent notre peau. C'est ce qu'on appelle le microbiome cutané. Alors, il fera entre 2 et 3 kilos, donc c'est plus que votre cerveau, enfin, j'espère. Et on y retrouve des moisissures, des levures, des acariens et des bactéries. Il est très important, ce microbiome, car, comme le dit Sophie Strobel, qui est responsable scientifique chez Paula Choice, c'est la première ligne de défense de la peau.
Le microbiote vit en parfaite intelligence, en parfaite synergie avec la peau. C'est-à-dire que les bonnes bactéries vont se nourrir, en fait, de nos sécrétions, de sébum ou de déchets, de cellules, par exemple. Et en échange, ils vont aider à nous défendre contre les mauvaises bactéries, mais aussi nous aider à cicatriser, nous aider à avoir une barrière cutanée vraiment intègre et plus forte.
Et ce microbiote de la peau, on l'a dès la naissance, mais il va évoluer au cours de la vie.
Et qu'est-ce qui fait que, Benjamin, ce microbiote va se déséquilibrer au cours de la vie?
Eh bien d'abord les facteurs environnementaux, hein, comme la pollution ou les UV, et puis le tabac, le stress, les antibiotiques, les désinfectants, toutes ces agressions extérieures qui vont créer des failles dans votre flore cutanée et la rendre moins efficace. Et c'est là que des mauvaises bactéries vont prendre le dessus et on va voir apparaître des boutons, des taches et bien d'autres imperfections.
Alors justement, Jimmy, là, il en peut plus, il veut savoir comment on fait pour rééquilibrer ce microbiome cutané.
Ça fait quelques années que les laboratoires cosmétiques justement travaillent sur ce problème, mais contrairement au microbiote intestinal où là, il suffit de manger des produits fermentés, des yaourts pour recoloniser nos intestins avec de bonnes bactéries, le problème avec les cosmétiques, c'est qu'on ne peut pas y intégrer des bactéries vivantes, c'est pas hygiénique, et donc depuis peu, on retrouve des crèmes avec des prébiotiques qui sont la nourriture des bonnes bactéries, comme l'explique Sophie Strobel.
En gros, c'est comme si la bonne bactérie était un peu bec sucré et que donc quand on lui apporte des prébiotiques qui sont souvent des sucres complexes, justement, on va la nourrir préférentiellement vis-à-vis des mauvaises bactéries et donc elle va bien se développer au détriment des mauvaises bactéries.
Et dorénavant, on en retrouve justement dans des sérums, des crèmes de jour, de nuit, des lotions, bref, des soins cosmétiques qui ont vocation à rester sur la peau. Et l'autre avantage de ces prébiotiques, c'est qu'ils évitent de rajouter des conservateurs. Écoutez, Pascale Deloma, elle est la cofondatrice de la marque Biosme.
Parce qu'en fait, ils ont des capacités d'autoconservation des formules. Donc ça nous permet d'éviter les conservateurs synthétiques dans nos formules. Donc il n'y a plus de conservateurs dans nos formules, dont on sait aujourd'hui qu'ils ont un effet pas terrible sur la peau, et notamment qui sont impliqués dans le développement des allergies cutanées et de la sensibilité cutanée.
Résultat, moins de boutons, moins de taches, une peau plus saine, et ça peut même améliorer certaines maladies de peau, comme l'eczéma, comme l'explique le docteur Marie Jachier.
En fait, il y a beaucoup de dermatoses inflammatoires, c'est-à-dire de maladies inflammatoires de la peau, qui peuvent être en partie liées à un dérèglement de cette flore cutanée appelée microbiote cutané, où il va y avoir certains micro-organismes ou certaines bactéries qui vont devenir prédominantes et qui vont entretenir ou aggraver l'inflammation cutanée. En restaurant un petit peu l'équilibre de la flore du microbiote cutané, à ce moment-là, on va pouvoir diminuer l'inflammation et donc améliorer les maladies inflammatoires de la peau. L'eczéma, également le psoriasis par exemple.
Et justement, Benjamin, est-ce que vous avez 2-3 petits gestes pour ne pas détériorer ces bonnes bactéries?
Bien sûr, Jimmy, d'abord ne pas trop se laver.
Ça, c'est facile.
C'est pas une raison pour faire son jacouille, mais une douche par jour suffit. Et on utilise des produits lavants avec un pH neutre, comme le précise Pascale Deloma.
Ça va avoir le moins d'impact possible sur votre microbiome cutané. Donc ça veut dire que, par exemple, les savons naturels, il faut les utiliser avec parcimonie parce qu'en fait, ils ont un pH très élevé et ça, c'est pas du tout bon pour le microbiome. Autre chose qu'il faut éviter, c'est utiliser les produits dans lesquels il y a trop d'alcool, parce que l'alcool, là aussi, vous savez, c'est un antibactérien très, très, très fort. Et donc, cet alcool, il va aussi détruire les bonnes bactéries que vous avez sur la peau. Donc, ce ne sera pas bon pour votre peau.
Et puis, bannir l'eau très chaude qui perturbe la flore cutanée. Enfin, ne pas abuser des gommages et il faut éviter les débaquillants trop détergents.
Ok, merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté du lundi. Dans un instant, on se rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors, restez bien avec nous sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien évidemment, Jimmy Mohamed. Et puis cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question, enfin vous allez répondre, hein, puisque nous, on ne saurait pas avec Jimmy, mais c'est Katia.
On peut y répondre, mais de façon, à mon avis...
Approximative, ouais, c'est ça. Donc c'est Katia, elle a 22 ans et elle nous demande « Je me suis fait ghoster par un mec après avoir couché avec lui et vraiment, je ne comprends pas cette manière de faire. C'est vachement blessant, dit-elle, et je trouve ça super lâche. Pourquoi est-ce que certaines personnes font ça ?» C'est le principe, nouveau principe à la mode, enfin je ne sais pas, on dit ça c'est chez les jeunes, hein, j'imagine, parce que moi, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Être ghosté, ça veut dire quoi? Ghost, ça veut dire fantôme?
Oui, c'est devenir un fantôme dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, on a couché avec lui, on a partagé de l'intimité, et d'un seul coup, on n'existe plus du tout.
Ouais.
Voilà. Donc, évidemment, il y a une idée de tout ce que ça laisse derrière, de silence, parce que inévitablement, la personne qui est ghostée, eh bien, va vouloir essayer d'interpréter ce silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Pas dit? Fait? Pas fait? Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que l'autre a utilisé de moi? Etc.
Bah, si on est ghosté...
Vous connaissiez ghosté, vous,
non,
Jimmy?
Non, mais pas...
Non, on n'est pas assez jeune. Non. Même vous, Jimmy.
J'ai basculé de votre côté, malheureusement. Mais du coup, ça veut dire quoi? Qu'on a été nul, en fait, c'est ça? Que la performance n'était pas au rendez-vous?
C'est justement ce qu'imagine la personne qui est ghostée.
Ça peut être que si c'était super, il n'y a pas de raison d'être ghosté.
Mais à moins que ce soit parce que celui avec qui on a fait l'amour est celui qui se sent mal, celui qui ne se sent pas à la hauteur ou a eu peur de regard ou a mal interprété les choses et disparaît parce qu'il a du mal à exister dans la relation. Alors après, il y a le consommateur pour le consommateur, je consomme l'autre, et de fait, à ce moment-là, je le prends et je le jette comme si il n'existait pas. Inévitablement, les choses ne sont pas comme ça. Quand les relations, quand on s'est dit, quand on ne s'est pas compris, quand on se dit qu'on ne s'entend pas, et que finalement on détend les liens parce que c'est trop lourd, c'est insupportable, c'est difficile à expliquer, ou là c'est autre chose, des liens qui, c'est une parole qui a du mal à se faire et qui fait du coup les distances prises. Mais là, on est deux corps qui se rencontrent, deux corps qui se désirent, deux corps qui manifestement arrivent à s'entendre suffisamment pour coucher ensemble. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne.
Bon, l'expression « ghosté », on a compris que c'était un truc moderne, des jeunes actuels, on va dire. Mais de tout temps, je crois que ça a existé. Et ce n'est pas plutôt un truc de mec, ça, quand même, de ne plus donner de nouvelles du jour au lendemain. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les femmes sont peut-être parfois plus délicates, je ne sais pas.
Genre, je pense que peut-être que notre époque aujourd'hui, les femmes cherchant l'équité peuvent être aussi fortes.
Peuvent ghoster, alors
elles
d'accord.
Maintenant, je pense qu'effectivement, c'est souvent la difficulté que l'on a pu trouver chez les hommes de mettre des mots sur une expression qui est de sentiment. Quand je dis sentiment, c'est pas sentiment amoureux, sentiment de la situation pour soi-même, et que c'est plus facile d'aller acheter un paquet de cigarettes et jamais remonter. Donc effectivement, il y a toutes ces petites histoires, ces légendes pas toujours très, très rassurantes, et avec toujours l'idée en face des femmes d'être utilisées, d'un corps utilisé pour la petite affaire, et puis après de ne plus exister, ce qui du coup est très blessant.
Ouais. Oui, parce que Catherine, vous édulcorez un peu le propos des hommes qui n'ont pas pu mettre des mots sur des sentiments.
Non, mais c'est des connards.
Vous ne voudriez pas un peu de moi?
Non, mais c'est un truc de lâche, parce que la relation peut se terminer même après un soir. Et puis,
bien
si
sûr,
ça
surtout,
se passe mal,
surtout à notre époque.
Ça se passe mal, et puis si c'était nul, c'était nul, et puis si c'était qu'un coup d'un soir, c'est qu'un coup d'un soir. Donc pourquoi ne
pas
mais
c'est pas toujours facile de le dire. Dire à quelqu'un, écoute, ça ne me correspond pas, ou j'ai plus envie, ou salut, c'est assez difficile. Je te rappelle, parce que c'était ça quand des personnes flirtaient, il y a, pas votre génération, mais ma génération, on se disait, bon, on se fait signe, je te rappelle, et puis, silence radio.
Quittons-nous, bons amis.
C'est voilà. Oui, à l'époque, c'est... on se revoit sur le Minitel, non, c'était pas...
c'est ça. On n'était pas nés.
Mais du coup, finalement, faut prendre comment quand on prend ça? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut à tout prix vouloir une réponse de la personne?
Franchement,
qui...
s'il a fait ça, c'est qu'il n'en valait pas la peine, ouais, non? On peut pas lui dire ça. Moi, j'aurais conseillé ça, Katia.
Oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire
qu'à un
moment donné, on peut prendre le temps de se remettre en question le cas échéant, mais on ne peut pas passer sa vie à se remettre en question et être toujours responsable de ce que fait ou ne fait pas l'autre. L'autre peut avoir ses limites, l'autre peut être dans la difficulté d'établir un lien ou de se faire comprendre. Et si l'autre, tout d'un coup, n'existe plus, il n'existe plus, c'est dommage parce que le monde est tout petit, on le croise tôt ou tard, surtout, enfin, sauf si on l'a recroisé sur des réseaux, mais si sinon, si c'est dans des groupes d'amis ou périphériques, tôt ou tard, cette personne, on la recroise. c'est un peu nul. Mais on a le droit aussi d'être nul.
En tout cas, il ne faut pas qu'elle se dise que c'est forcément de sa faute. Le mec qui a fait ça, c'est peut-être lui qui a un problème, tout simplement. Hein, c'est ça, qui n'est pas en accord avec
bien
lui-même.
Sûr, bien sûr. Mais je crois que c'est ça le problème souvent du silence. C'est que le silence fait que ou on est très agressif à l'égard de celui qui fait le silence, ou on se remet en question en boucle pour nourrir sa propre idée négative de soi-même.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, merci de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. Tout de suite, je vous laisse entre de bonnes mains. Ce sont Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, on va parler des musiciens qui ont le diable au corps.
Mais dans quel sens Stéphane?
Eh bien c'est-à-dire, on croyait que c'était des sorciers en quelque sorte. Niccolo Paganini. Il avait une drôle de façon de jouer du violon.
Et une drôle de tête aussi, il faut le dire.
Robert Johnson aussi, très étonnant.
Bluesman, qui aurait rencontré le diable à un carrefour, c'est ça?
C'est ça, ce qu'il prétendait. Et vous avez rencontré le diable aussi?
Oui, le diable. Alors moi, je pensais qu'il faisait semblant. C'est Marilyn Manson, vous savez, beaucoup. Vous l'avez dans votre playlist Deezer. Vous avez mis des cœurs, je sais, dans votre playlist. Et visiblement, c'est un sale type dans la vie aussi. Il est évidemment aussi diabolique pour de bon que sur scène.
J'ai peur.
Bon, bah écoutez, on a l'impression qu'on s'est consulté, on en a tous fait en musique aujourd'hui, cet après-midi, une après-midi musicale sur Europe 1. On va rester avec vous, bien sûr, et vous aussi qui nous écoutez, restez sur Europe 1.